Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Le journal, présenté par Gisèle Cage.
Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver nombreux pour cette édition du journal sur Radio Okapi. Passons tout de suite au titre. Inondation à Kinshasa et dans d'autres provinces de la RDC. Réunion d'urgence de la cellule de crise. Des mesures immédiates dont la démolition des infrastructures en zone non constructible seront annoncées dans les prochains jours. La RDC s'engage à respecter 235 de 289 recommandations du Conseil de droits de l'homme de l'ONU lors de la 58e session du Conseil tenue le 24 février au 4 avril 2025 à Genève. La délégation congolaise a pris cet engagement selon le rapport reçu ce jeudi. Une organisation de droits de l'homme appelle à la mobilisation de tous les partenaires pour améliorer la situation des droits de l'homme en RDC. La guerre menée par le M23 soutenue par le Rwanda ne se résoudra pas par la force. Le dialogue est essentiel, déclare Roxane de Wilderling, ambassadrice de la Belgique en RDC, à l'issue de sa visite de 3 jours à Beni. Dans une interview exclusive avec Radio Okapi, elle dévoile les stratégies diplomatiques que la Belgique et ses partenaires européens comptent déployer pour instaurer une paix durable dans la région. C'est tout pour les titres. Restez avec nous pour plus de détails sur ces sujets. Le président de la République a dirigé mardi dernier une séance de travail avec la cellule de crise concernant les inondations à Kinshasa et dans d'autres provinces de la RDC. Cette réunion s'est tenue à la Cité de l'Union africaine avec pour objectif d'évaluer l'ampleur de la situation et de prendre des mesures urgentes. Selon la présidence de la République, cette cellule de crise annoncera formellement dans quelques jours les mesures prises, notamment la démolition de toutes les infrastructures construites dans les zones non constructible. Écoutons le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya qui donne également le bilan actuel de pluie du 4 au 5 avril dernier à Kinshasa dans cet extrait proposé par Grace Amzati.
Il était donc question au cours de cette séance de travail de faire le point de la situation aujourd'hui au président de la République, principalement la situation des sinistrés. Un bilan a été fait, malheureusement 75 compatriotes sont décédés et plus de 11 000 sont sinistrés aujourd'hui qui sont hébergés sur 4 sites. De ce point de vue, le président de la République a donc encouragé les gouvernements. La cellule a été réunie hier par la première ministre pour passer en revue toutes ces questions et évidemment établir les états des besoins nécessaires pour y répondre. Le président de la République a encouragé le gouvernement a continué à apporter cet appui à nos populations qui ont été touchées. Le deuxième volet du sujet a été le volet maintenant de comment le gouvernement réagit et s'attaque aux causes qui ont conduit à ces inondations. Vous savez qu'on ne peut pas blâmer les catastrophes naturelles ou la pluie, mais il y a une grosse part de l'humain dans ce qui s'est passé.
En lien avec les inondations du 4 au 5 avril, les sinistrés de récentes inondations qui ont frappé la ville et qui sont hébergés à l'Institut technique industriel Kitomessa dans la commune des Kisanso font face à d'énormes difficultés. Depuis 3 semaines, ils n'ont reçu que l'assistance de quelques particuliers sans aucune aide du gouvernement congolais. Ces 180 familles manquent de tout et lancent un cri d'alarme aux autorités politico-administratives pour obtenir une aide qui leur permettrait de se relever après cette catastrophe dont elle continue de subir les conséquences. Plotin Yambenga, Étienne Lissumbu et Benjamin Mudumbi sont allés à leur rencontre et signent ce reportage.
La tristesse est encore visible sur les visages de ces sinistrés. Dès l'entrée de l'école où ils sont logés, une odeur nauséabonde se dégage. Depuis plus d'une semaine, ils n'ont rien reçu. Même les robinets sont secs. Parents et enfants passent la nuit à même les sols. Les chefs du site expliquent.
Regardez nos logements. Les latrines que le maman et les enfants utilisent sont très sales. Il n'y a ni matelas, ni lit, ni quoi que ce soit. Nous avons des femmes enceintes, des enfants malades, trop de problèmes sur ceci.
Cette mère de 4 enfants, porteuse d'un bébé, raconte sa vie depuis son arrivée dans ces sites. Ces notables techniciens plaident pour une prise en charge adéquate, comme c'est le cas dans d'autres sites réquisitionnés par les gouvernements.
Il y a des gens qui viennent de l'autre côté là parce qu'on apprend qu'on va donner des terres, on apprend qu'on va donner des mousses. Ils s'infiltrent parmi les sinistrés. Il faut descendre rendre là. Là où est passée de l'eau, on n'a même pas le temps de demander. Vous allez voir des signes dans le mur.
Ces sinistrés affirment que seuls deux élus et l'ONG Caritas ont pu les rapporter quelques vivres au début de leur installation sur ces lieux.
Dans la province de l'Ituri, le site des déplacés des Kingonze à Bunia abrite environ 10 000 enfants en âge scolaire. Malheureusement, la plupart d'entre eux passent leur journée à mendier dans les rues de la ville, ce qui les expose à la maltraitance des adultes, à des actes dégradants et à des maladies. Pourtant, la division provinciale des affaires sociales et partenaire de l'UNICEF organise quotidiennement des activités dans un cadre appelé espace ami de l'enfant afin d'occuper utilement ces enfants victimes des conflits armés dans leur milieu d'origine. Sadiki Aboubakar a visité cet espace. Voici son reportage.
Nous sommes à l'espace ami de l'enfant. Assis sur une bâche, en groupe de 5 ou 6, ces enfants, dont l'âge varie entre 3 et 7 ans, sont concentrés, certains pour le jeu de cartes, d'autres pour le jeu de six. D'autres encore font du dessin sur des ardoises. Grace Logo, à peine 6 ans, affirme que sa maman lui a formellement interdit d'aller mendier en ville.
À l'époque, je me rendais en ville pour mendier. Ma mère me l'a formellement interdit. J'ai commencé à étudier et actuellement, je passe du temps ici à jouer aux différents jeux. Entre-temps, j'aide aussi ma mère à faire puiser de l'eau et à balayer la cour.
Ces enfants ont vécu des moments difficiles dans leur milieu d'origine. Certains ont même assisté à des exécutions sommaires de leurs parents, ce qui est à la base des traumatismes qu'ils subissent au quotidien, affirme Grace Malossi, gestionnaire de l'espace.
Pour aider les enfants à les faire sortir de ces traumatismes, nous faisons par exemple les dessins. À travers un dessin, l'enfant exprime ce qu'il a vécu. Plus il essaie d'en parler, il essaie d'oublier aussi. Et on a l'activité ludique.
Une très grande partie de ces enfants préfèrent plutôt aller mendier en ville plutôt que de prendre part à ces activités qui les occuperaient utilement, déplore Grace Malossi. Bounia, Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
Dans la ville de Beni au Nord Kivu, le centre de santé de Nzouma a reçu hier mercredi une assistance des casques bleus kényans de la MONUSCO. Cette aide comprend un lot important de médicaments et un réservoir d'eau pour renforcer la capacité de stockage d'eau de cette structure sanitaire. Le responsable du centre a déclaré que cet appui de la MONUSCO va améliorer la prise en charge des malades et la distribution continue d'eau potable à la population. Juda Mahamba, infirmier titulaire du centre de santé de Nzouma, est au micro de Marc Marofimbo.
Nous sommes ravis de joie d'accueillir nos amis des contingents de la MONUSCO, précisément les Kenyans. Ils viennent de nous amener un bon tank de 2000 ml et puis un lot de médicaments importants. Ça doit nous aider à couvrir notre population, donc notre couverture sanitaire. C'est un besoin ressenti de la population et de notre part, du centre de santé. C'est au moins 6 mois, oui, mais nous avons tendu une main auprès de notre contingent ici de la MONUSCO. Voilà, aujourd'hui, il vient nous appuyer quand même. À la population de notre aire de santé de venir s'approprier ces médicaments. Et par rapport à la facturation, on va baisser encore la facturation à 50%.
Désormais, l'inspection générale de la police nationale congolaise sera présente dans la province du Maïndombe. Une délégation de cette institution a été reçue en audience lundi par le gouverneur de province, Lebon Koso Kevani, pour lui annoncer l'implantation d'une coordination provinciale de ses services à Inongo, chef-lieu de la province. Le chef de la délégation, le commissaire supérieur John Dabia Wangu, a déclaré à l'issue de cette rencontre que son service a pour mission, entre autres, de faire respecter le droit de l'homme et le règlement du pays par le policier. Écoutons l'extrait de sa déclaration au micro d'Irène Mbomaluzolo.
Nous sommes venus implanter l'institution d'inspection générale de la police nationale congolaise, l'antenne provinciale de Maïndombe. Aujourd'hui, nous sommes sur terrain. Nous allons travailler avec nos collègues de la police. Nous serons derrière la police pour faire voir que dit la loi, que dit les règlements de notre pays. Nous allons faire le mieux, c'est-à-dire de faire voir à un policier qu'il est en dehors de la loi, il doit revenir sur le pied de la loi. La mission de l'inspection générale, c'est de veiller au strict respect des règlements et lois de notre pays à travers les policiers. Nous sommes venus faire appliquer le respect des droits de l'homme.
Nous ne sommes pas venus ici pour nos frères, nos amis, nos collègues civils. Nous avons affaire avec la police. Nous voulons un peu que la police soit professionnelle. Que les policiers savent que nous sommes venus travailler avec eux. Nous ne sommes pas leurs ennemis non plus. Nous sommes venus seulement voir ce qui n'a pas marché hier et cela marche aujourd'hui. Et avec leur concours, nous allons réussir notre mission.
Je le disais dans le titre, la RDC a accepté de se conformer à 235 de 289 recommandations émises par les pays membres du Conseil de droits de l'homme des Nations Unies. Cet engagement a été pris par la délégation congolaise lors de la 58e session du Conseil qui s'est tenue du 24 février au 4 avril 2025 à Genève et dont le rapport nous est parvenu ce jeudi. Le coordonnateur national du foyer de développement pour l'autopromotion des personnes indigentes et en détresse, Vicar Batundi Ongi s'en réjouit en tant que membre de la coalition des organisations congolaises pour l'examen périodique universel de la RDC. Il appelle à la mobilisation de tous les partenaires pour améliorer la situation des droits de l'homme en RDC. On écoute alors ses propos.
Notre pays vient de commencer son 4e cycle de l'examen périodique universel. Les rapports adoptés à Genève le 24 mars courant, le gouvernement de la République démocratique du Congo a accepté 235 recommandations sur 284, c'est-à-dire environ 82,7% le nouveau cycle. C'est suite à ce qu'il y ait une forte mobilisation parce que il faut élaborer les plans de mise en œuvre des engagements pris à Genève. Et nous, au niveau de la société civile, nous devons mettre en place un plan de suivi de la mise en œuvre des recommandations et donc soutenir les efforts du gouvernement afin que d'ici 4 ans et demi, nous puissions avoir des résultats qui montrent qu'il y a des changements sur le plan pratique.
La pluie qui s'est abattue hier matin sur Kinshasa n'a pas interrompu les travaux du dialogue national sur la gouvernance minière en contexte des conflits en RDC. Initié par le comité de crise pour la paix et la sécurité, ce forum vise à développer un narratif commun, un plan d'action et des mesures d'accompagnement pour la société civile afin de mener un plaidoyer efficace au niveau national, régional et international. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Les participants à ces travaux, au moins 120, dressent un état des lieux de la gouvernance minière dans l'est du pays. De nombreux panélistes défilent à la tribune de ces dialogues pour scruter la situation minière dans la partie est de la RDC. Les premiers intervenants planchent sur les impacts des conflits liés à l'exploitation minière sur les droits des femmes, des enfants et des communautés locales. Les panels spéciaux sur les cobalt développent la thématique sur l'évaluation des initiatives sur les minéraux stratégiques ainsi que les impacts de mesures prises sur les cobalt en RDC. La société civile du Sud Kivu s'intéresse à la documentation des cas de pillage des ressources minières dans cette partie du pays. Cette deuxième journée se clôture sur le plaidoyer en faveur de la résolution du conflit dans l'est de la RDC, approche de la diplomatie citoyenne. Les participants à ces assises proviennent notamment de la présidence de la République, de la primature, du Parlement, du gouvernement central, des gouvernements provinciaux ainsi que de la société civile.
Au Kasaï central, des missions de contrôle ont été déployées à Kananga et dans les localités de la province pour rétablir l'ordre dans les secteurs de mines. Cette décision a été prise mardi dernier lors de la réunion de ministres provinciaux. Le gouverneur de province, Joseph Moïse Kambulu, a affirmé avoir pris des mesures pour mettre fin à la contrebande et au désordre qui perturbe le secteur minier dans toute la province. L'assainissement du secteur de mines vise également à attirer des investisseurs nationaux et internationaux. Au Nord Kivu, le gouverneur de province alerte la population sur le risque d'apparition de l'anthrax, une maladie du charbon qui affecte les animaux et les humains. Cette alerte fait suite à celle de la direction provinciale de l'Institut congolais pour la conservation de la nature concernant une épizootie, maladie animale contagieuse dans les périphéries du parc national des Virunga. Dans un message adressé à la population du Nord Kivu, le général Évariste Somo Kakule invite les habitants à se protéger contre cette maladie en évitant de toucher ou de consommer des animaux malades ou morts Prisca Lunda Kamala, conseillère spéciale du gouverneur en charge de la santé, s'est exprimée à ce sujet. Nous allons l'écouter dans nos prochaines éditions d'information.
Actualité internationale.
Afin de soutenir une proposition du parti d'opposition UNITA portant sur l'autonomie du Cabinda, les indépendantistes du FLEC FAC ont annoncé un cessez-le-feu unilatéral de 2 mois en début de semaine, annoncé lundi 14 avril. La trêve décrétée par le Front de libération de l'enclave de Cabinda, FLEC FAC, qui court jusqu'au 14 juin à 23h, vise à créer les conditions d'un éventuel dialogue entre le mouvement indépendantiste et le gouvernement angolais, ainsi qu'à laisser une chance à l'initiative du parti d'opposition UNITA qui dépend de l'instauration du processus inclusif et pacifique destiné à offrir une autonomie politique et administrative élargie au Cabinda pour y consolider la paix. De son côté, le MPLA, le parti au pouvoir, a d'ores et déjà opposé une fin de non-recevoir à cette offre qui n'a aucun sens, avance-t-il. Pour lui, en effet, il n'y a pas de conflits armés au Cabinda.
L'invité.
Notre invitée, Roxane de Bilderling, ambassadrice du Royaume de Belgique en RDC, conclut ce jeudi une visite de 3 jours à Beni, chef-lieu de la province du Nord-Kivu. Elle nous livre un état des lieux de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, notamment la guerre menée par le M23 avec le soutien du Rwanda. Roxane de Bilderling dévoile également les stratégies diplomatiques que la Belgique et ses partenaires européens comptent déployer pour instaurer une paix durable dans cette région. Elle répond aux questions de Martial Papimoukeba.
Madame Roxane, bonjour.
Bonjour.
Quelle est la portée symbolique de votre visite à Beni, une région longtemps marquée par l'insécurité et les violences armées?
Pour moi, c'était important de venir me rendre à Beni, une ville qui est située dans une région qui a beaucoup souffert et qui souffre encore beaucoup aujourd'hui. C'est aussi ici que sont venues s'installer les autorités provinciales. Et donc, je tenais à rencontrer le gouverneur et le reste de son équipe pour entendre un peu quelles étaient les priorités, les visions de l'équipe du gouverneur dans ces temps très compliqué.
La région de Beni, Boutembo et Lubero fait face à une double menace. Au nord, les ADF, au sud, les M23 soutenus par les Rwanda. Quel tir en fait la Belgique et comment ces défis influencent-ils vos priorités en matière de coopération sécuritaire et humanitaire?
Il y a évidemment d'abord la guerre d'occupation avec le M23 qui occupe une partie de la province et avec l'appui des troupes rwandaises. Et puis alors, il y a la menace de divers groupes armés et en particulier des ADF. Pour ce qui concerne les ADF, il y a des actions qui sont pour l'instant entreprises, une forme de collaboration entre les troupes ougandaises et congolaises pour essayer d'y mettre fin. On sait aussi que la MONUSCO dispose ici d'une brigade d'intervention pour intervenir justement, pour protéger la population, protéger les civils, c'est son premier mandat, contre ces attaques. Et donc je crois que ce qui est important maintenant, c'est que ces différentes forces se coordonnent. Maintenant, on sait que le commandant de la force de la MONUSCO vient se baser ici à Beni. Donc j'espère que ça va pouvoir permettre encore une plus grande coordination entre ces forces pour mettre fin à ces violences sur des civils.
La guerre menée par l'AFC M23 continue de ravager l'est de la RDC. Quelle piste soutenez-vous pour sa résolution?
La position de la Belgique a toujours été très claire. Elle a été une position, dans un premier temps évidemment, de condamnation de la prise d'armes et la condamnation, soutien aussi qui est apporté par le Rwanda à ces rebelles à travers vraiment une présence assez forte et un apport assez fort à leur action. Donc la Belgique a condamné, la Belgique a soutenu aussi une mobilisation pour sensibiliser autant au sein de l'Union européenne qu'avec d'autres partenaires. Il y a eu des sanctions qui ont été imposées par l'Union européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni, plein d'autres partenaires également. Mais condamner, sanctionner, ça ne suffit pas. Il faut une solution, comme vous l'avez dit. Il faut préconiser une solution. Pour nous, la solution, elle ne sera pas militaire. Il faut absolument relancer les processus qui ont vocation à résoudre cette situation par la discussion, en fait, par le dialogue. Et donc, on sait qu'il y a eu des efforts de la région. Maintenant, on a vu diverses initiatives qui ont été lancées pour remettre en route la machine, en fait, parce qu'il y avait un peu une sorte d'enlisement. On On a vu l'initiative du Qatar pour remettre ensemble les présidents, pour essayer aussi d'organiser des discussions avec les rebelles du M23. Donc nous, ce qu'on essaye, c'est d'appeler les initiatives qui veillent à au plus vite, et c'est urgent, avoir un cessez-le-feu. C'est un cessez-le-feu véritable qui soit vraiment mis en œuvre, qui soit avec un engagement sérieux des parties d'arrêter de se battre. Et puis après, il faut trouver un mécanisme d'observation de ce cessez-le-feu. C'est le plus urgent. Et après, il faut voir comment on résout la question de façon durable. Comment est-ce qu'on assure un retour de l'autorité de l'État sur tout le territoire?
Comment la Belgique perçoit-elle la situation humanitaire, sécuritaire et institutionnelle dans les zones actuellement occupées par le M23, notamment au regard du respect du droit international humanitaire et de la souveraineté de la RDC?
La souveraineté, elle n'est pas respectée, puisque pour l'instant, il y a des autorités parallèles qui ont été mises en place. Il y a une occupation de facto de toute une partie du territoire. Donc la souveraineté n'est pas respectée. Pour l'instant, c'est un des graves problèmes. La situation humanitaire, elle est catastrophique. Vous aviez énormément de personnes déplacées qui étaient dans des camps, qui ont été forcées de quitter ces camps avec des ultimatums. Hein. Certains se cachent aussi. Il y a beaucoup de répression contre les défenseurs des droits humains. Donc il y a un climat de peur qui règne dans ces zones-là. On sent qu'on ne contrôle pas la sécurité. Il y a toujours des tirs et des violences qui sont commises tous les jours, que ce soit à Goma, à Bukavu. Je crois que, voilà, occuper un territoire, c'est une chose. Gagner la confiance de la population, c'en est une autre. Et administrer un territoire aussi. Et là, je crois qu'on est vraiment bien loin du compte.
Selon vous, la Belgique et ses partenaires européens devraient-ils accentuer les pressions diplomatiques ou économiques sur le Rwanda, accusé de soutenir les M23 pour favoriser un retour durable à la paix?
Je crois que ce qui est important, c'est de mettre en place, tant que possible, les conditions d'un dialogue constructif. Et donc, si à un moment ou à un autre, il y a des parties qui ne veulent pas jouer le jeu du dialogue, qui ne le font pas de façon constructive, il faut en effet augmenter la pression. C'est important.
Madame Roxane, merci.
Merci à vous.
C'était l'ambassadrice du Royaume de Belgique en RDC, Roxane de Bilderling, qui discutait avec Marcel Papi Moukeba de la crise sécuritaire dans l'Est du pays. Merci d'avoir été avec nous pour cette édition du journal sur Radio Capi. Mise en ombre par Mimi Kindou, supervision par Pélequipe Lamondo et présentation par Gisèle Cage. Merci de nous avoir accompagnés. Nous vous invitons à rester à l'écoute pour nos prochains programmes et à continuer de vous informer avec nous, notamment via nos réseaux sociaux. Vous pouvez également consulter notre site www.radiocapi.net pour rester informé en temps réel. Très bonne journée à tous.